Thomas Kirschbaum est sociologue, chercheur associé à l'Institut des sciences sociales du politique. Et il travaille sur les politiques urbaines d'intégration et de lutte contre les discriminations qu'il étudie dans une dimension comparative, en particulier avec les États-Unis. Vous avez été expert France dans le cadre du réseau européen d'experts socio-économiques sur les discriminations. Vous avez produit plusieurs rapports thématiques pour la Commission européenne sur ces questions.
Merci et bonjour. Alors, je pense que la plupart d'entre vous n'avez pas eu la chance comme moi de lire le papier de Sébastien Chauvin, qui était tiré d'un livre collectif, apparemment, si j'ai bien compris. C'est un peu une gageure pour moi d'en faire le résumé, d'autant plus qu'il est extrêmement charnu, je dirais, ce papier. Le thème général, c'est en fait une certaine vision du community organizing, c'est-à-dire comment l'ancrage dans les quartiers permet d'organiser des minorités qui appartiennent aux quartiers pauvres. Mais surtout, le papier met beaucoup l'accent sur la question des solidarités, ou plus exactement de la difficulté d'établir des solidarités interethniques et interraciales. Et donc l'histoire du pèlerinage, c'est simplement qu'annuellement, les membres de cette organisation vont à Washington se réunir tous ensemble et à travers différentes anecdotes tout à fait intéressantes, l'auteur nous montre comment se délite finalement cet esprit d'unité de ceux qui ont pour point commun de venir de quartiers marginalisés dans la ville de Chicago, puisque c'est une organisation de Chicago qui l'étudie. Bon, je ne peux pas en dire tellement plus là, parce que je ne l'ai plus absolument en mémoire. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que, au-delà de l'hétérogénéité apparente des trois contributions, hein, pour le moins, alors bon, moi, quand j'en ai pris connaissance comme ça dans un premier temps, je me suis dit, waouh, comment je vais pouvoir commenter ça dans un même mouvement. Et puis finalement, j'ai identifié quand même un certain nombre de questions, et surtout, j'ai vu différentes complémentarités entre ces communications. Parce que, d'une certaine façon, la question qui est traitée par les uns et les autres, c'est la même, me semble-t-il. C'est l'accès aux politiques des minorités que, par un raccourci, on pourrait appeler les minorités urbaines. Pour être plus précis, il faudrait dire les minorités racialisées qui connaissent une similitude de problèmes ou de situations dans des quartiers urbains marginalisés. Donc fondamentalement, je crois que la question posée par les trois communications, c'est bien celle de l'accès aux politiques et des gains possibles qui peuvent découler de l'accès aux politiques. Alors, aucun de ces papiers n'est, à proprement parler, comparatif. Bien que le sous-titre du colloque soit « Échange transatlantique », aucun des papiers ne prend à bras-le-corps cette dimension. Et ce que je vais essayer de faire, moi, c'est pas du tout d'apporter les réponses hein, en termes de comparaison, mais c'est d'interroger au moins nos deux intervenants sous cet angle-là, et puis d'essayer de susciter une réflexion avec vous tous sur quels enseignements on peut tirer de ce qui a été présenté, des analyses qui ont été présentées, sous l'angle de la comparaison franco-américaine en particulier. Alors, première observation, les trois papiers, les trois communications, donc celle aussi de Sébastien Chauvin, conduisent immédiatement à se déprendre d'une tentation qui peut exister chez les uns ou les autres de survaloriser l'un des deux modèles en considérant finalement qu'il serait plus favorable que l'autre, hein, modèle états-unien d'un côté, modèle français de l'autre, plus favorable dans la capacité des systèmes politiques, en particulier locaux, à répondre à l'enjeu qui est celui des inégalités raciales et telles qu'elles s'inscrivent dans l'espace urbain. À lire les papiers, mais en réalité, c'est des réflexions enfin, là, bien connues, hein, pour le coup. Il me semble qu'on ne doit pas parler de modèle au sens de l'exemplarité des États-Unis ou de la France sous cet angle-là, mais plutôt, on se rend compte, en écoutant les interventions, que chaque modèle a les inconvénients symétriques de l'autre, ou les faiblesses symétriques de l'autre. Pour le dire comme ça, il y a aux États-Unis, et Michael y insiste beaucoup, une reconnaissance et une inclusion forte et réelle des minorités dans la sphère politique, mais couplée avec une faiblesse, qu'on pourrait dire, structurelle des politiques redistributives. Bon. En France, c'est un peu l'inverse. Il me semble qu'on a un niveau d'intervention publique qui, en dépit de la crise actuelle, se maintient quand même à des niveaux qui sont bien supérieurs à ceux des États-Unis. Je pense même dans une ville pauvre comme Roubaix. Mais on a une absence à peu près totale de reconnaissance des minorités, des inégalités spécifiquement subies par les minorités, par la sphère politique. Et Julien le montre bien, hein, de ce point de vue, l'universalisme républicain aboutit plutôt à perpétuer ces inégalités qu'à apporter un début de réponse. Alors, je voudrais vous livrer une hypothèse. Hein, je ne sais pas. Je n'ai pas pu entendre les débats de ce matin. Donc peut-être qu'elle a déjà été travaillée au cours de vos discussions. Mais on pourrait se demander... C'est pas une hypothèse. C'est plus une question. Si la ville néolibérale ne serait pas finalement en train d'araser un certain nombre de ses spécificités nationales que je viens de décrire au profit d'un mode de régulation plus uniforme d'un pays à l'autre qui serait guidé par le marché et au service du marché. Alors, à cet égard, me semble-t-il, le papier de Michael est tout à fait clair. Hein. Il montre très bien comment le néolibéralisme détruit et recompose de façon très forte ce qu'on pourrait appeler la politique des minorités aux États-Unis, ou en tous les cas dans son cadre urbain. Le papier de Sébastien Chauvin, d'une certaine façon, va dans le même sens, puisqu'il montre que l'un des effets de la globalisation économique, c'est-à-dire l'afflux d'immigrés qui ne sont pas des citoyens nationaux avec une proportion importante de sans-papiers, qu'il impute pour une large part dans son papier aux accords de l'ALENA, eh bien, ça aboutit, il le montre, à fragmenter l'agenda ou les agendas des minorités et à rendre plus difficile que jamais la construction d'agendas communs. Michael, pour sa part, analyse davantage les effets de la néolibéralisation sous l'angle de l'érosion du pouvoir municipal. Donc il montre comment, en particulier, hein, son analyse est très riche, mais il montre en particulier comment l'affaiblissement tendanciel du soutien fédéral aux villes affaiblit la capacité des systèmes politiques locaux à redistribuer des ressources, en particulier entre les différents quartiers. Et du coup, la principale ressource qui reste est quasiment une ressource symbolique, qui est celle de l'occupation des fonctions électives. Alors, pour répondre de façon plus complète à la question que je posais, c'est-à-dire est-ce qu'on assiste finalement à une sorte d'effacement des spécificités nationales, là, on aurait besoin, pour le coup, d'un éclairage français sur la question. Alors, ce n'était pas l'objet de ton papier, Julien. Tu n'abordes pas directement la question de la néolibéralisation ou de la ville libérale, mais j'aurais aimé avoir quand même ton point de vue là-dessus, savoir si tu considère qu'il y aurait en France, et il y a un certain nombre de travaux qui vont dans cette direction, hein, qui montrent qu'il y aura en France quand même des mécanismes permettant de résister assez fortement à ce rouleau compresseur de la néolibéralisation à travers le maintien et la persistance d'un certain nombre de mécanismes de régulation publique. Bon. Est-ce qu'on peut s'en tenir à ce constat ? Je ne suis pas absolument certain. Peut-être qu'on peut, à partir de ce que tu as dit, élargir le propos en considérant que, finalement, l'un des signes ou l'un des indicateurs de cette tendance à la néolibéralisation, c'est peut-être tout simplement le fait que, contrairement à l'ère industrielle, hein, jusqu'à la fin des années 70, il y a un déficit de représentation politique croissant des classes populaires. Et ça, c'est une transformation absolument majeure. Mais dans ce cas, si on souscrit à cette hypothèse, il me semble qu'il reste à éclaircir la question de savoir si ce qui est à l'œuvre... Qu'est-ce qu'on entend par classe populaire, du coup, hein, si c'est plutôt des logiques de classe qui sont à l'œuvre ou des logiques de race. Donc toi, tu insistes beaucoup sur la dimension raciale au sens large de l'affaire. Mais si on prend la question par ce bout-là, bah, sur quoi on retombe ? On va retomber sur la permanence en France d'une idéologie républicaine de l'intégration, sa permanence et son durcissement même, on pourrait dire, sur les héritages postcoloniaux qui sont spécifiques à la France, sur le rapport à l'islam qui est spécifique à la France. Et du coup, bah là, je trouve qu'on y perd un peu cette hypothèse de la ville néolibérale comme facteur explicatif des transformations qui sont à l'œuvre. Donc j'aurais bien aimé avoir ton point de vue là-dessus. Il n'en reste pas moins que ton papier vient vraiment éclairer de façon très forte, me semble-t-il, la nécessité en France qu'il y a à inscrire les questions raciales et les questions des discriminations, liées aux discriminations sur l'agenda politique. Mais alors, de ce point de vue, si on se retourne maintenant vers les États-Unis, je trouve très frappant de voir comment, peut-être même à l'encontre de certaines idées reçues que l'on peut avoir sur... les États-Unis comme pays fortement communautarisé, eh bien, je n'ai pas beaucoup entendu à travers les propos de Michael, ni en lisant le papier de Sébastien, je n'ai pas beaucoup entendu ou vu l'existence d'une offre politique différenciée servant de façon explicite les intérêts de ces groupes et visant à remédier de façon explicite, pas indirecte, exemple Obamacare, hein, où là, on a une approche indirecte qui, effectivement, bénéficie de façon disproportionnée à des gens qui appartiennent à des minorités. Mais ce type de politique, me semble, est assez largement daté, en tous les cas, à écouter l'intervention de Michael ou à lire le papier de Sébastien Chauvin. Je suis frappé comment l'une et l'autre des deux communications insistent énormément, finalement, sur des enjeux de précarisation économique, de sécurisation des ressources publiques, d'inégalité spatiale. Et du coup... on n'y voit plus de façon aussi limpide que l'on pourrait s'y attendre avec un regard français cette dimension raciale des phénomènes. Donc j'aurais aimé avoir le point de vue de Michael sur les débats qui travaillent aujourd'hui la société américaine, hein, autour de l'hypothèse de l'entrée dans une société post-raciale. Et d'une certaine façon, est-ce que l'évolution des politiques urbaines que tu décris, comment est-ce qu'on peut les interpréter par rapport à ces enjeux-là ? Alors, il me restait encore un dernier champ de questions, si j'ai le temps. Oui. Voilà. Alors, moi, ce que je trouve intéressant quand on juxtapose comme ça des présentations, même si elles n'ont pas vocation immédiate à se répondre les unes les autres, c'est que on y voit à la fois des histoires très singulières, hein, des histoires nationales très, très singulières, mais en même temps, il y a des facteurs de convergence. Et le principal, me semble-t-il, c'est que dans les deux cas, par des cheminements très différents, on arrive à ce constat qu'on a des systèmes politiques locaux qui échouent assez largement à prendre en charge et à répondre aux demandes spécifiques des minorités racialisées. Bon. Alors, une fois que l'on a dit ça, et ce sera le dernier aspect que je voulais évoquer... Non, excusez-moi, je m'en mêle un peu les pinceaux parce que j'ai un système de pagination très, très complexe là dans les notes que je viens de gratter. Par rapport à cet enjeu, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez pessimiste qui se dégage de tout ce qu'on vient d'entendre. Et si vous lisez le papier de Sébastien Chauvin, vous serez renforcé dans ce sentiment. Ça vient du fait, je crois, alors ça c'est peut-être un regard très français sur la question, ça vient du fait que le modèle d'inclusion politique dont les États-Unis sont d'une certaine façon l'emblème couronné par l'élection d'Obama, etc., ce modèle qui a été développé depuis 50 ans, on a l'impression qu'il est aujourd'hui totalement impuissant à résorber la question des inégalités raciales. Ce que raconte Sébastien Chauvin sur Chicago, c'est en même temps, ça témoigne en même temps du fait que le politique aux États-Unis continue de polariser les minorités qui se tournent vers elles. Le voyage qu'il raconte de ces gens qui vont à Washington, symboliquement, c'est pourquoi ils vont à Washington ? Ils y vont parce que c'est le lieu du pouvoir fédéral, le lieu du pouvoir politique central. Mais on peut se demander pour quel gain effectif. Et sur ce terrain-là, il me semble que les constats établis par ces différents auteurs conduisent à un certain pessimisme. Le point fort de l'argumentation de Michael, c'est de dire que finalement, au moment où les Afro-Américains ont réussi leur incorporation politique, c'est le moment précis où s'effondre le système qui permettait de soutenir la redistribution des ressources organisées par le politique lui-même, et que cette tendance ne fait que s'accentuer à mesure qu'on entre dans l'ère de la gouvernance néolibérale, c'est-à-dire qui est fondée sur les notions de consensus, de réseau, de soumission aux objectifs de compétitivité, de retour sur investissement, etc. Là, pour le coup, j'ai des questions qui peut-être s'adressent aux deux auteurs. Moi, j'aurais envie de demander à Julien, faisons un peu de fiction, imaginons que les minorités maghrébines prennent le pouvoir à Roubaix. Pourquoi pas ? Quel gain, autre que symbolique, ça apporterait aux habitants des quartiers les plus marginalisés de Roubaix. Moi, je crois qu'à la lumière de l'expérience américaine, on peut vraiment se poser la question. Et de ce point de vue, les présentations sont assez convergentes parce que la participation politique des minorités, politique au sens électoral du terme, finalement, dans un cas et l'autre, on voit bien qu'elles ont surtout pour effet de renforcer la légitimité d'un pouvoir local dont l'agenda sert très peu les minorités elles-mêmes. Donc, pour le dire autrement, on serait plutôt dans un jeu de dupes. Là, pour le coup, je vais conclure là-dessus en m'attardant quelques instants sur la question plus spécifique des méthodes de mobilisation des minorités dans l'espace urbain. Parce que les trois communications évoquent à un titre ou à un autre un objet qui nous fascine beaucoup en France, qui est celui du community organizing. Il nous fascine d'autant plus qu'on l'a assez peu mis en œuvre jusqu'à présent. Mais en même temps, les trois papiers donnent à voir l'habilité de ce concept qui peut recouvrir des approches très différentes et des finalités elles-mêmes très différentes. Dans le papier de Sébastien Chauvin, on est plutôt dans la description de l'approche traditionnelle au sens d'Alinsky. Dans celui de Julien, au moins pour la partie concernant l'idée du porte-à-porte pour mobiliser les gens et aller voter, là, on est plutôt dans la veine Obama 2008, c'est-à-dire le community organizing comme outil de mobilisation électorale. Et puis, dans ce que raconte Michael, il me semble qu'on est encore dans une troisième acception de la notion, c'est dans le cadre des politiques dites de community development, de développement communautaire, on a plutôt affaire à ce qu'on pourrait appeler du community building que du community organizing. Et peut-être que tu pourrais nous éclairer sur cette distinction. Julien en avait parlé dans un papier tout à fait éclairant qui était paru dans la vie des idées. J'aurais envie de lui demander, à partir de son expérience à Los Angeles, qu'est-ce qu'il perçoit comme condition d'efficacité du community organizing comme, comme technique de mobilisation, d'efficacité par rapport à l'enjeu de changer les relations de pouvoir afin de réduire les inégalités raciales, et qu'est-ce qui, à ses yeux, manque en France qui permette d'atteindre une telle efficacité. Et à Michael, j'aurais envie de demander s'il perçoit finalement, s'il pense que le divorce entre le community development de plus en plus centré sur des objectifs de performance, de développement des territoires, notamment autour du logement, de mise en attractivité des territoires, est-ce qu'il pense que le divorce est inéluctable entre cette logique-là et la logique du community organizing de type alinskien, qui, lui, repose sur des fondements différents et cherche plutôt à organiser la confrontation avec les pouvoirs locaux plutôt que de jouer la carte du consensus. Merci.
Merci pour ces commentaires qui ont permis de faire le pont entre Roubaix et Cleveland et même qui ont inclus Chicago. Plusieurs questions ont été adressées aux intervenants, donc on est un petit peu pressé par le temps en même temps. Donc je vais demander peut-être aux intervenants de rester dans une certaine limite pour qu'on puisse ensuite ouvrir la discussion avec la salle. Donc voilà, Julien, Michael, je sais pas lequel des deux souhaite... répondre en premier, peut-être Julien, puisque okay. Vous étiez le premier.
Bon, merci Thomas pour toutes tous ces commentaires, toutes ces questions, et je ferai plus des remarques que des réponses vraiment, vraiment précises. Peut-être sur le premier point, sur le néolibéralisme comme facteur convergent entre des modèles nationaux très, très éloignés. Alors c'est vrai que moi, j'ai pas du tout parlé de néolibéralisme dans ma communication, parce que moi, je ne travaille pas sur les politiques publiques, et je travaille plutôt sur leur réception par les individus et par les citoyens ordinaires. Néanmoins, d'une certaine façon, il y a effectivement à l'œuvre une sorte de néolibéralisation des comportements, et le discours d'être entrepreneur de soi-même est quelque chose qui est extrêmement présent, moi, sur le terrain. C'est un élément que je n'ai pas abordé, mais c'est que, précisément, face à, d'un côté, la fermeture des opportunités sociales pour une bonne partie des minorités, le sentiment d'injustice lié aux discriminations, la solution pour sortir de ça, bien plus que la mobilisation politique, chez beaucoup de mes enquêtés, c'est de monter son business, en fait. Et voilà. Et donc c'est s'en sortir en devenant un entrepreneur et en étant son propre patron, puisque précisément le marché du travail est tellement fermé à ces minorités, par exemple. Donc premier point, effectivement, il y a des éléments de convergence probablement de ce point de vue-là. Deuxième élément, pour faire aussi un parallèle avec ce que disait Michael sur les effets du néolibéralisme sur le gouvernement local, effectivement. Les conditions du clientélisme sont en train de se tarir, y compris en France. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup moins de ressources à distribuer, des gens qui ont travaillé là-dessus en France. Il y a notamment moins de logements, par exemple, moins d'emplois publics à distribuer comme en échange d'emplois publics. Néanmoins, un élément qui assure quand même un certain maintien de la relation clientélaire en France, en tout cas moi ce que je vois à Roubaix, c'est précisément la subvention associative. C'est-à-dire que c'est un moyen d'assurer des salariés, etc. Et donc, si les ressources ne sont peut-être pas massives en termes d'emploi ou de logement, c'est en finançant des associations et en créant des emplois associatifs que des relations quand même assez fortes entre le pouvoir politique et la société civile se maintiennent. Et c'est pour ça que je parlais d'une société civile qui était assez peu autonome dans le cadre. Néanmoins, c'est peut-être en train de se transformer, et c'est peut-être aussi le néolibéralisme qui est à l'œuvre ici et qui sape, au fond, les bases d'organisation du pouvoir local. Deuxième élément, tu as à juste titre souligné le fait que j'avais beaucoup mis l'accent dans ma présentation sur la question raciale. Et c'est vrai. Après, moi, c'était aussi un effet de cadrage par rapport à la conférence. Et moi, quelque chose de je suis relativement convaincu, c'est-à-dire que dans le débat, peut-être très français, de question raciale, question sociale, substitution de l'un à l'autre, c'est que moi, j'ai quand même fortement le sentiment, au regard des recherches que je mène à Roubaix, que le déni de la question raciale empêche de véritablement s'attaquer à la question sociale. Et que, précisément, de faire de la question raciale, et notamment de la question des discriminations, un vecteur de mobilisation politique serait peut-être, par transitivité, un moyen de véritablement s'attaquer à la question sociale, pour une raison bien simple, c'est que, comme je le disais au début de ma présentation tout à l'heure, ce dont parlent principalement les gens, en tout cas moi les interviewés dans les interactions, etc., c'est de sentiment de discrimination. Et donc c'est un facteur, le sentiment d'injustice est structuré autour de ça, et donc on peut s'appuyer là-dessus, à mon avis, pour ensuite mener d'autres combats et imaginer d'autres formes de mobilisation politique. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai observé à Los Angeles, pour le coup, c'est la très forte imbrigation, au fond, des luttes raciales et sociales, et contrairement à ce que parfois on croit dans l'imaginaire français de ce que sont les États-Unis, pour le coup, mener des luttes sociales et des luttes raciales n'est pas forcément contradictoire au regard, précisément, de l'imbrication de ces deux questions aux États-Unis, mais en France aussi, à beaucoup d'égards. Troisième point sur est-ce que prendre le pouvoir local par les minorités est un moyen, au fond, de transformer fondamentalement les choses. Moi, je suis assez sceptique également au regard de ce que tu dis de l'expérience américaine, mais aussi au regard de la perception de la question raciale par les élites politiques ou même les classes moyennes issues des minorités, en tout cas sur mon terrain. C'est-à-dire que l'évitement de la question de discrimination et de la question raciale que j'observais, elle était le fait aussi bien des militants et des leaders blancs que des leaders minorisés. Et donc là, de ce point de vue-là, il n'y avait pas de grosses différences. Il y a même un effet, tout un travail de distinction par rapport aux classes populaires, racisées, etc. Et donc pas du tout la volonté de prendre en charge cette question-là et de se faire les porte-parole de ce groupe discriminé. Donc, à cet égard, je ne crois pas effectivement que ça changerait grand-chose. Dernier élément sur le pessimisme et les conditions d'efficacité de la mobilisation des catégories populaires et des minorités en France et aux États-Unis. Moi, effectivement, j'ai passé donc un an à faire du terrain sur des organisations communautaires à Los Angeles et je suis revenu plein d'optimisme. Et tu le sais, on a déjà parlé, d'autant plus au regard de la déprime roubaisienne ambiante, c'était exceptionnel. Et pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à mobiliser beaucoup plus massivement des gens que personne n'arrive à mobiliser en France, notamment des minorités, sur la question de la création de coalitions raciales. C'est quelque chose, alors je ne nie pas les travaux de Sébastien, mais tout l'enjeu des organisations que j'ai étudiées, c'est précisément de faire travailler les Black and Browns ensemble. Elles sont nées après les émeutes de 92, des organisations que j'ai étudiées, et de ce point de vue-là, les conditions d'efficacité de création de coalitions interraciales, c'est un travail politique et symbolique extrêmement important. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'était pas l'objet de ma communication ici, mais par tout un ensemble de rituels, éventuellement de rituels religieux, la création d'un langage commun, etc. Il y a un travail. Alors, c'est relativement fragile. La très grande fragilité, justement, de ces coalitions interraciales, à mon sens, c'est l'absence, au fond, de sujets politiques qui viendraient unifier ces acteurs très différents. Il y a un problème de micro, non ? C'est-à-dire que ce qui rassemble ces gens, qui sont effectivement fragmentés par une histoire et par des éléments raciaux évidents, ce qui les rassemble, c'est le langage de la communauté. Et il me semble, moi, que la catégorie de la communauté est une catégorie trop faible pour être un élément de subjectivation politique commun pour un ensemble de minorités et de classes populaires et ne permet pas de dépasser la fragmentation des catégories populaires. Et donc, il manque un langage et quelque chose qui va au-delà de cela. Enfin, qu'est-ce qui manque en France ? J'ai fini, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui manque en France ? Il manque, je pense, beaucoup de choses. Mais un élément, moi, qui me paraît tout à fait essentiel, et c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus aussi dans ma présentation, c'est les conditions matérielles, y compris financières, d'organisation autonome du mouvement social. Là, pour le coup, moi, c'est pour ça que je l'ai évoqué à Roubaix, mais le financement, les salles, etc., sont un élément très, très concret, mais qui sape à la base dès que quelqu'un essaye de lever l'oreille, rapidement, on l'écrase. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on commence à réfléchir, d'ailleurs, avec d'autres militants, par ailleurs, sur les conditions de financement d'une démocratie d'interpellation en France.
Je donne la parole à Michael McQuarrie, encore une fois, pour répondre aux commentaires relativement brièvement, pour laisser la parole à la salle.
Yeah, I mean, very, very briefly, Community development will not get divorced from property revalorization. The foreclosure crisis will disconnect community development corporations from existence. That's the end of that story. Organizations, in my experience in research, where I deal with organizations a lot, they don't change very much. Organizations are extremely conservative entities. And you know, I traced the trajectory of this field that I showed you earlier over those 10 years, and actually go back another 30, though with less detail. They don't change very much. The dynamic of change in organizational fields is usually births and deaths, not organizations choosing to change. Interesting thing, though, is that even in the midst of the foreclosure crisis, when this whole property redevelopment paradigm of competitiveness was revealed to be the sham that it was, the city actually stepped in to subsidize all of the broke community development corporations. That is, the organizations that were supposed to relieve the state of having to pay for all of this had to step in and actually subsidize them to keep them alive in the midst of the biggest urban crisis the city had experienced in 30 years. The authority of these organizations for policymakers absolutely trumps their real utility, which means they'll never go away. In that sense, they'll never go away. They'll always be funded. Until we finally decide that, like, community is just the wrong scale, which, by the way, is happening. Okay, so I talked about this a little bit in the paper, and I talk about it a lot in my work, but I didn't talk about it much in the talk. Governance was rescaled in the wake of black mobilizations in the 1960s, and more importantly, in the wake of the neighborhood mobilizations in the 1970s. It was rescaled from the municipality to the neighborhood. This was tremendously important for minority neighborhoods. They all of a sudden got to make decisions about stuff, which they didn't get to make decisions about before. And that organized a whole bunch of policy. But the point was that between about 1975 and 1995, well, let's say 2005, community was the authoritative scale for neighborhood interventions in US policy. That is no longer true. The main reason is this problem of universality and particularity again. If you decide that dealing with any sort of particularities are costs to your competitiveness, you want to excise all of the avenues, all the institutional avenues in which that particularity can express itself. So not surprisingly, starting in the 1990s and mostly initially in the pages of the National Civic Review, there was a tremendous project to all of a sudden decide that for cities to be competitive, they had to be organized at the regional scale. Many projects to reorganize governance to the regional scale. And by the way, every single time this happens, African Americans in the relevant city go, yeah, this is a project to make sure we can't speak. Like, they always say that. I actually wrote a paper about that, which got serially rejected, unfortunately. It wasn't a very good paper. But in Pittsburgh, Louisville, Indianapolis, Buffalo, same story. Frank Jackson actually was pretty astute about this in Cleveland, because he said, fine, we're going to go to the region, but we're not going to do it through sort of nonprofit civic organizations. It's going to be actually a county government. And that was a way of acknowledging we have to move to region, but we're going to keep the government happening where African Americans still have access, right? Which is pretty clever, right? But it also shows you the box that he was being pinned into. As governance rescales to the region, these community-based organizations aren't going to matter very much. But more importantly, it's going to be more of the same in terms of marginalizing African American voices in urban cities. I just want to say one other thing about Obama, which is something that drives me crazy. To me, the real story with Obama, when the chips were really down on the table and it was time to do something, Obama did nothing. And that issue was around how do you deal with foreclosures. This is an issue that directly affected not just African American, but all urban communities. And it was a choice of whether you give bankers back their money or whether you allowed neighborhood residents to stay in their houses. And he chose to give bankers back their money. All of the other stuff about race that gets talked about with him is absolutely insignificant compared to that choice, as far as I'm concerned. It was a massive transfer of wealth from minority households to Wall Street, and one that nobody has really dealt with, and like journalists don't really cover it that way, but it's one that I am absolutely convinced tells the story about race in the Obama administration. And I will stop there.
Thank you. Donc, commencer la discussion.
Okay. I have a question for Julien. Andrew suggested this morning that we stay with our native languages, so I'll ask you the question in English, but you can feel free to answer in whatever language. I was going to ask you if the investigation you've been conducting in Roubaix, let's begin by saying that you convinced me pretty well that the space for developing ethno-racial themes and the theme of discrimination as a theme of political intervention in Roubaix, that space is not very wide. There are all kinds of ways in which it's restricted and discouraged. But I was wondering whether the investigation you're conducting also allows you to understand what the people who don't vote, who abstain and who don't respond to door-to-door, what their activity does consist of, what they're thinking about, whether it's political in any stretch of the imagination, whether it's more about individual withdrawal, whether it has to do with associative activities, religion, what have you. Roubaix is 200 kilometers away. I don't know the territory very well. I've always imagined that people like Siad Bouamama and others were doing work that goes against the grain. Is it so insignificant that it doesn't even show up on your radar screen when you do that kind of research?
Thank you both for your papers. I also have a question about Roubaix. I was curious about the kind of economic background to your story, because you were talking about that these were largely North African migrants that came to work in the textile mills. So I was curious, with the 70%, was it 70% employment rate? How high was it, or 50% employment rate?
Unemployment is 25%.
Oh, 25%. Whoops. Okay, thank you. Lost in translation. So when people talked about discrimination, what were they talking about? Were they talking about public sector jobs, private sector jobs? Were they talking about jobs? Also, I was curious about the social welfare dimension. When they talk about discrimination, is it in relationship to social welfare provisions or schooling? What is the economic dimension of the discrimination? And so just thinking about that, you know, Stuart Hall's formulation, race is the modality through which class is lived. How does the social welfare state look differently when you are living in Roubaix? And the second thing is just, I'm curious if you have a gender analysis about, I was so struck by these women who are advocating for their sons to participate in politics, because that's also very common in carceral mobilization. People have advocated in the United States a kind of march of mothers against the disappeared as a way to have mothers advocate for sons, and I was fascinated to see that done in the political sphere. So I'm curious about your just gender analysis about how you see that. In the United States, African-American women have the highest rate of voting. So I'm curious, it might be worth thinking about that, why that is in the US, and then how that translates into the French experience.
Merci. Bon, je voulais demander à Julien, là, la question suivante. Vous avez dit que la notion de race, qui n'était pas observée dans les différentes organisations, provoquait la démobilisation. Je voudrais savoir si la notion de communautarisme, Thomas en a parlé ce matin comme étant absolument tabou dans le paysage républicain français, est-ce que c'est par souci d'idéal d'universalisme ou si est-ce que c'est un facteur également de démobilisation de ces minorités ?
Merci. Merci beaucoup pour les deux présentations très intéressantes. Julien, je voulais vous demander... Les mobilisations, enfin les mouvements antiracistes, les associations antiracistes. Vous avez parlé le deuxième type. Vous n'avez pas parlé des profils sociologiques en fait des membres, alors que vous avez mentionné que donc pour les premières, les un peu plus classiques, de type classique, donc c'est essentiellement des blancs. Voilà, j'aurais aimé un petit peu avoir plus de détails sur les profils sociologiques. Et puis aussi sur peut-être la dimension historique aussi de cette démobilisation, en quoi est-ce qu'elle peut être mise en lien avec des actions collectives passées qui n'ont pas eu les effets politiques et sociaux espérés. Voilà. Donc,
on peut prendre un dernier. Il y a beaucoup de travail à faire pour Julien.
Quel succès pour Roubaix.
On va lui remettre une couche alors. Justement, mais dans la foulée de ce qui a été dit juste précédemment, mais aussi par rapport aux commentaires que vous avez faits sur les différentes interventions, notamment l'impact du néolibéralisme dans les quartiers populaires, qu'il faut, c'est vrai, à chaque fois redéfinir, indéniablement, on le sait, les services publics contribuent à la redistribution des richesses. Et on sait qu'en pleine période néolibérale, ces services publics sont particulièrement attaqués. Et aujourd'hui, on assiste à une réforme de l'éducation prioritaire qui a un impact extrêmement conséquent. Je le dis parce que dans le même moment, à Créteil, à Saint-Denis et ailleurs, des mamans, encore une fois, des mères qui sont des femmes, ils se trouvent en tant que mères, elles interviennent politiquement pour réasseoir une école de qualité pour leurs enfants, etc. Donc la question des services publics est extrêmement importante. J'imagine qu'à Roubaix, c'est la même chose. Concernant le déni des discriminations raciales, sans aucun doute, je crois que ça a été très bien développé et sans doute qu'on y reviendra, mais il n'y a certainement pas de déni de la question raciale pour autant. Des discriminations, oui, mais pas de la question raciale. Je le dis très posément, moi qui habite à Argenteuil, où nous avons deux mosquées, une qui est colorée UMP, si j'ose dire, et une autre partie socialiste, parce que justement, avec les politiques clientélistes, et je crois qu'on n'en a pas fini, hélas, même si j'entends bien la crise du logement et que les emplois publics sont compliqués, il se trouve qu'il y a toujours des moyens d'asseoir symboliquement des pouvoirs locaux et puis de jouer sur la carte religieuse. Je suis quasiment sûr qu'à Roubaix, il doit y avoir les mêmes ressorts, peut-être que vous pourriez l'évoquer. Et une autre question, je ne sais pas si elle est pertinente en soi, mais en quoi la question raciale n'est pas elle-même une question sociale. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a ce curseur à placer entre l'un et l'autre, entre l'un ou l'autre, je ne sais pas trop, mais à un moment donné, à quel moment se fait la synthèse entre les deux, puisqu'elle se vit elle-même de manière, systémique à l'échelle de chacun des individus qui vivent dans ces quartiers, ces Noirs, ces Arabes, ces Roms, etc. Voilà.
Premier élément, peut-être, si j'ai bien compris ta question, Jim, mais il est évident que j'ai mis l'accent sur les entreprises de mobilisation et leur échec, mais pour aller vite, si les gens ne se mobilisent pas ou ne votent pas, il y a d'autres facteurs que le fait que ceux qui cherchent à les mobiliser s'y prennent mal. Il y a évidemment des facteurs en termes d'intérêt pour la chose publique, etc. Et donc il y a les variables lourdes, pour aller vite, qui sont effectivement tout à fait décisives. Et moi, j'ai beaucoup d'entretiens avec des gens et on comprend que de toute façon, ils sont très très loin de la politique et de l'engagement depuis longtemps. Et que voilà, la question, moi, ce qui me surprend, c'est que, quand on regarde du côté de l'offre, des gens qui cherchent à mobiliser ce type de public, soit proposent un discours aussi décalé des gens qu'ils cherchent à mobiliser. Moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est le décalage des cadres. Et c'est ça qui... après, ça ne veut pas dire que après c'est la seule raison pour laquelle les gens ne se mobilisent pas. Deuxième élément, je ne prends pas les questions dans l'ordre, mais sur une question sur le profil sociologique des associations antiracistes radicales. Et pour le coup, je faisais référence, je ne voulais pas forcément les nommer, mais à des gens qui sont dans la nébuleuse de Saïd Bouamama. Pour le coup, c'est pour partie, en tout cas dans ces associations-là, soit des classes moyennes, deuxième génération maghrébine, qui ont connu une trajectoire d'ascension sociale, ou alors des classes moyennes blanches, et c'est l'alliance entre les deux. Et voilà. Et donc c'est clairement, en tout cas, des classes moyennes qui ont un capital culturel extrêmement fort, ceci expliquant évidemment cela. Donc voilà. Et je suis un peu dur avec eux, mais en même temps, c'est des discussions qu'on a très concrètement quand on se voit sur la façon de s'y prendre pour effectivement mener à bien les luttes qu'ils cherchent à mener. Alors ensuite, sur de quel type de discrimination ils parlent, moi, c'est vraiment des discriminations. Il y a deux types. Alors, il y en a un qui est vraiment très, 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 très fréquemment évoqué, c'est discrimination sur le marché du travail pour accéder à des stages, internships, ou des emplois. C'est le premier truc. Le deuxième, qui est extrêmement à la source d'un fort sentiment d'injustice, c'est à l'école, en fait. Et dans les pratiques d'orientation, moi, je découvre des choses, mais qui sont incroyables. Moi, j'ai très souvent en entretien des gens qui me racontent, et ils parlent il y a des choses il y a 5 ou 10 ans, que leurs professeurs au lycée mettaient d'un côté les blancs et de l'autre côté les non-blancs. Et donc ça, c'est des choses qui reviennent très souvent. Donc c'est même pas uniquement sur les pratiques d'orientation, mais sur les pratiques scolaires de certains professeurs, etc. Alors évidemment, c'est du déclaratif, je fais des entretiens. Mais effectivement, il y a de la racialisation des politiques éducatives qui sont effectivement à l'œuvre. Et après, alors le truc, c'est qu'on manque évidemment de données de ce point de vue-là sur les pratiques d'orientation. Mais il y a chez moi beaucoup de mes interviewés une présomption de pratiques discriminatoires de la part de l'institution scolaire en termes d'orientation scolaire, c'est-à-dire qu'à résultat scolaire égal, on ne propose pas la même orientation à des blancs et des non-blancs. Le problème, c'est qu'on a peu de données, il me semble qu'on commence à avoir des choses, mais c'est peu publicisé. Ensuite, je sens qu'il ne faut pas que je sois trop long. Évidemment, sur l'histoire et les expériences passées qui contribuent à la démobilisation, la génération de la marche des beurs qui est évidemment dégoûtée. Il y a pas mal de travail là-dessus, sur la transmission de la mémoire des mobilisations qui ont échoué et qui font que effectivement les troisièmes générations derrière ont du mal à s'engager. Alors, un point peut-être sur le déni des discriminations et pas de la question raciale. Effectivement, par moment, il y a une racialisation d'un certain nombre d'interactions. Moi, alors, je ne l'ai pas du tout évoqué ici parce que je ne pouvais pas tout faire, mais j'ai suivi par exemple la campagne municipale à Roubaix. Et là, c'est très clair qu'un des enjeux importants dans la campagne municipale dans ce cas-là, c'était l'affiliation de groupes communautaires par les différents candidats. Donc il fallait avoir le leader de la communauté turque, le leader de la communauté congolaise, il fallait avoir telle ou telle mosquée, et dans des termes qui étaient très très clairement ethnicisés ou racialisés. Et même des stratégies de mobilisation, c'est-à-dire que c'était les Noirs qui allaient mobiliser les Noirs, les Turcs qui allaient mobiliser les Turcs, etc. Et donc, effectivement, un clientélisme communautaire qui est extrêmement fort. Et c'est presque paradoxal, c'est-à-dire que d'un côté, il peut y avoir une sorte d'évidence de la question raciale quand elle est dans ses intérêts, mais néanmoins, quand on cherche à mobiliser dans une relation qui est un petit peu moins instrumentale comme celle du porte-à-porte, là, pour le coup, la discrimination. Et quand je regarde, par exemple, le programme des partis politiques aux élections municipales, la question des discriminations est mais quasiment absente, en fait. Et c'est pour ça que je dis le décalage. C'est-à-dire que, d'un côté, moi, j'ai des gens qui m'en parlent tout le temps sans que je pose la question, et d'un autre côté, en termes d'offres politiques très concrètes, je pourrais faire une analyse de discours des offres, des programmes électoraux aux élections municipales, c'est quasiment absent. Ce qui ne veut pas dire, effectivement, qu'il n'y a pas de racialisation, parce que, voilà, il y a des tracts pour aller mobiliser l'électorat musulman, etc. Il y a effectivement tout un ensemble de techniques et de technologies et de stratégies pour mobiliser certaines catégories de la population. Bon, je vais rester là, je pense. Ah, les femmes. Les femmes, oui, excusez-moi. Je suis... les femmes. Alors, je suis... Oui, oui. Alors, les femmes, en tout cas, une des façons de répondre, c'est que c'est quand même pas n'importe quel type de femme. C'est-à-dire que c'est... Il y a une question générationnelle et une question d'ascension sociale. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens dans les entretiens que je fais avec les mères de famille qui sont extrêmement préoccupées par leurs enfants, c'est des mères de famille qui ont connu une trajectoire d'ascension sociale, qui ont éventuellement connu le racisme, mais... Elle semble dire que pas tant que ça. Donc c'est des gens qui ont fait des études, je disais, notamment là, celle qui était la leader du mouvement que j'évoquais, Bac plus 4, mais j'en ai d'autres comme ça, qui ont connu, voilà, qui ont fait des études et qui ont eu des emplois et qui ont accédé à la classe moyenne, à la petite classe moyenne quasiment, et qui sont dégoûtés de voir leurs gamins qui, eux, vont connaître une trajectoire de déclassement massive, en fait. Et là, voilà, et... D'une certaine façon, là, pour le coup, parce qu'elles ont connu cette ascension sociale, le sentiment d'injustice est encore plus fort que chez les enfants. Chez les enfants, je fais des fois des entretiens justement avec mère et fils ou mère et fille. Chez les enfants, moi, ce qui me frappe, c'est la résignation, en fait. Il y a un sentiment de résignation qui est, de toute façon, ça ne changera pas. Et il n'y a rien à faire, la France est un pays raciste, on sera toujours des citoyens de seconde zone, et donc les options, c'est on va monter notre boîte, ou alors on va partir. C'est l'exit, en fait. Donc moi j'ai des discours qui sont un peu mythifiés, hein, mais de gens qui ne sont jamais allés en Algérie et qui disent qu'ils vont partir s'installer en Algérie, par exemple, alors qu'ils sont 3e, 4e génération, etc. Alors que chez leurs parents, pour le coup, à l'inverse, on est sur « mais putain, on est français, quoi ». Et je me suis battu, je me suis saigné pour que mes enfants connaissent l'ascension sociale, et ça marche pas. Et donc là, c'est là. Donc voilà, c'est pas qu'une question de genre, c'est une question de trajectoire sociale, je pense, en tout cas dans ce que j'ai pu observer.